Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane, 95.7 Kick.
Il est 16h26, le contre-interrogatoire de Gilbert Ozon par le procureur de la Couronne s'est terminé ce matin au Palais de justice de Montréal. La preuve est maintenant close et les plaidoiries finales auront lieu en novembre. Au cours de l'interrogatoire d'une trentaine de minutes, Gilbert Ozon a réitéré ses arguments présentés la veille, à savoir qu'il prétend n'avoir jamais agressé d'aucune manière la plaignante. Et ce témoignage est diamétralement opposé à celui de la plaignante qui a affirmé qu'elle s'était jetée sur lui. Dans cette affaire-là, il y a beaucoup question de notion de consentement. Et j'aimerais qu'avec Maître Bouliane, qui est en bout de ligne, on révise et qu'on l'explique, cette fameuse notion-là de consentement. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Alors, parce que là, il y en a été beaucoup question aujourd'hui. Hein? Oui, OK, ben moi, je me suis laissé... Roson, il dit, je me suis laissé faire... Il dit, bon, je consentais pas vraiment, mais...
Ça m'arrangeait.
Pour ce qui est de la plaignante, elle a dit, j'ai jamais donné mon consentement.
Et on est un peu sexiste, hein, à la base. Là, souvent, quand on écoute ça, on écoute les deux récits. Il y a celle qui dit, je me suis réveillé, il était sur moi, je sais pas plus quoi faire, donc etc. Puis lui, il dit tout à fait le contraire. Puis j'ai vu plein de commentaires passer de dire, oh mon Dieu, mais oui, hein, il s'est réveillé, puis elle était en train de le chevaucher, puis de se faire l'amour elle-même sur lui, tellement il était irrésistible. On a cette tendance-là à penser que son histoire est moins plausible du fait que c'est un homme et que c'est une femme. La juge, par contre, ne peut pas raisonner comme ça. Mais le commun des mortels, là, je sais que j'ai vu beaucoup cette réflexion-là passer. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu sexiste dans l'interprétation qu'on peut avoir des deux versions contradictoires. Pour répondre à ta question, Richard, sur le consentement, c'est important de dire aux gens, là, il y en a plein qui vont dire, elle n'a pas dit non, donc vous pouvez penser que c'était oui. C'est tout le contraire. Le consentement, c'est un oui. C'est pas une absence de non. Et de plus en plus, s'il y a une erreur sur le consentement, c'est-à-dire que s'il y a une victime qui vient dire, je ne consentais pas, vous pouvez toujours prétendre à une défense de consentement. Donc, une défense erronée de consentement, ça doit être raisonnable. Donc, évidemment, d'expliquer au tribunal, et vous avez seulement à soulever un doute là-dessus, qu'est-ce qui vous permettait de croire qu'elle consentait. Donc, elle participait, elle m'a enlevé mon gilet, elle s'est déshabillée, etc. On s'embrassait. Bon, il y a des choses que, au-delà des mots, puissent permettre à quelqu'un de conclure, parce que c'est pas un contrat qu'on signe, hein, quand souvent que c'est une peu, quand il y a de la passion, etc. On se dit pas, bon, ça, tu veux, oui, je peux te toucher là, oui, je peux maintenant faire ça, oui. Bon, on comprend que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a des éléments qui peuvent permettre à quelqu'un de penser que l'autre personne consent et qui peuvent permettre de soulever une défense raisonnable de consentement, c'est-à-dire de venir dire, ben moi, avec tout ce que je vous explique, c'est pour ça que je pensais qu'elle consentait, et si ça, c'est raisonnable, c'est un moyen de défense. Et c'est généralement ça qu'on voit dans les dossiers en matière sexuelle. Mais là, c'est même pas ça du tout. Il s'est pas lancé, M. Roson, à venir dire, ben, elle dit qu'elle consentait pas, mais moi, dans les circonstances, j'avais toutes les raisons de penser. C'est tellement diamétralement opposé, t'as tout à fait raison, Richard, que lui vient dire, c'est elle qui m'a réveillé puis qui était en train de m'agresser, purement et simplement. J'ai fini par consentir parce que ça faisait mon affaire. Mais donc, ces deux versions complètement contradictoires.
Est-ce que tu peux dire que Gilbert Ozon s'est fabriqué l'histoire parfaite pour se faire acquitter?
Ben, fabriqué. C'est difficile de prétendre qu'il l'a fabriqué.
En tout cas.
Mais écoute, quand on est en matière de versions contradictoires, il faut savoir que le test est en trois étapes. Donc, la juge devra se poser la question, est-ce que je le crois? Donc, évidemment, si elle le croit, elle doit l'acquitter. Ensuite, elle doit se dire, si je ne le crois pas, est-ce que malgré tout, sa version soulève un doute? Donc, ça se peut très bien qu'on dise, ben, c'est rocambolesque, il y a plein de détails qui ne marchent pas, mais malgré tout, ça soulève un doute dans mon esprit. Encore une fois, elle doit l'acquitter. Et si, même si elle ne croit pas sa version, ça ne laisse aucun doute, la version qu'il apporte, elle doit quand même se poser la question, est-ce que la preuve administrée devant moi me permet, hors de tout doute raisonnable, de conclure à sa culpabilité? Donc, c'est trois étapes, et il n'a qu'à soulever un doute. Il n'y a même pas à la convaincre, il n'y a même pas à être cru. Si sa version soulève un doute, il pourrait avoir un acquittement. Donc, il y a plein de choses que la juge aura analysées entre les deux versions. Et effectivement, dans ce cas-ci, c'est même pas une défense de consentement, c'est carrément une défense de version tout à fait contradictoire. La seule point commun c'est qu'il admette qu'il était là. Parce que souvent, on peut pas dire, je la connais pas, je l'ai jamais vue de ma vie, je sais pas de où elle sort ça. Lui, il reconnaît ça, dit qu'il s'en souvient très bien, dit même avoir déjà raconté cette histoire-là souvent, parce que ça l'avait marqué de se réveiller avec une érection avec une fille qui se faisait elle-même l'amour sur lui. Donc, c'est une version qui est complètement contradictoire, qui sort, si on veut, de généralement, les débats se font sur le consentement ou non.
Bon, moi, en tant que gérant d'estrade, je connais rien là-dedans, puis c'est pas une prise de position, là, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des chances d'être acquitté. Au niveau juridique, toi, ton analyse à date là, de ce qui a été dit cette semaine, est-ce que tu penses-tu que ça penche d'un bord ou de l'autre?
Ben, c'est difficile à dire. Il faut dire, comme je le répète tout à l'heure, c'est que la juge, elle n'a pas à choisir entre deux versions. On n'est pas en matière civile où on est par prépondérance des probabilités. La version de la plaignante doit la convaincre hors de tout doute raisonnable. Donc, le fait qu'il n'a qu'à soulever un doute, c'est difficile parce que nous, on ne l'a pas entendu témoigner. On a des choses qu'on nous rapporte sa version, mais quand on lit sur papier, comment ça sortit? Est-ce qu'il était crédible? Est-ce qu'il était d'aplomb? Est-ce qu'il regardait la juge? Est-ce que, bon, tout ça serait à être analysé? Donc, moindrement qu'il est crédible, puis que sa version, effectivement, soulève un doute, mais effectivement, on peut faire face à un potentiel acquittement dans ce dossier-là, effectivement.
Est-ce que la juge va tenir compte du fait que, contrairement à la présumée victime, Gilbert Rozon, on va se dire les vraies affaires, c'est un bon communicateur. Hein. Il a travaillé, entre autres, en France sur le panel d'une émission. Il a passé sa vie dans le showbiz. Je veux dire, c'est quelqu'un qui peut donner une bonne performance devant la juge. Est-ce qu'elle va en tenir compte?
Ben, sauf que des fois, c'est un peu l'inverse qui se produit, c'est qu'il y a des témoins, des victimes qui vont mal témoigner, puis là, les juges peuvent justement faire en sorte, ben, comme elle a été victime, c'est comprenable, etc. Donc, c'est pas nécessairement celui qui livre la meilleure performance, parce que souvent, même, il y en a qui, que la vérité sort moins bien, hein, parce que, tu sais, cette histoire-là, même ses avocats pourraient dire, t'es certain, là, que c'est vraiment la version que tu peux dire, parce que des fois, malheureusement, la vérité a l'air moins vraie qu'un mensonge, tu sais. Fait que lui, si c'est ça la vérité, évidemment qu'on peut pas dire à nos clients de dire autre chose, mais c'est certainement qu'ils l'ont confronté dans sa version en disant, écoute, c'est peut-être gros un peu, mais si c'est ça la version, c'est ce que tu vas livrer. Donc, c'est pas nécessairement celui qui livre la meilleure prestation, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont de très bons menteurs. Donc, si ça n'allait qu'à ça, les procès seraient vraiment un concours de performance oratoire.
L'histoire remonterait à 1979. Si, admettons, Gilbert Rozon est déclaré coupable, à quel genre de peine on pourrait s'attendre?
Ben, il pourrait être admissible à la peine la moins sévère entre celle d'aujourd'hui pour un crime similaire et celle d'à l'époque. Parce qu'il faut comprendre que le code criminel a été modifié en 1983. On a fait une grande réforme là, parce que c'était très sexiste à l'époque. Hein. Le crime de viol pour lequel il fait son procès, c'était forcément un homme avec une femme et ça devait être une pénétration vaginale. Sinon, c'était des attentats à la pudeur. Et quand je dis que c'était très sexiste, imaginez-vous, attentats à la pudeur, c'était un article. Si votre victime est une femme, c'était passible de 5 ans. Et si votre victime est un homme, c'était passible de 10 ans. Et le viol, lui, était passible à l'époque de perpétuité. Et il fallait que ça soit une pénétration vaginale. Donc, si vous sodomisiez, exemple, votre victime féminin, c'était un attentat à la pudeur qui était de maximum 5 ans. Or que le crime de viol, donc il y avait plein de choses incongrues. À l'époque, là, sur le consentement, là, il devait même, d'ailleurs, dans les dossiers d'agression sexuelle, il devait avoir de la corroboration. Donc, vous devez être corroboré par de la preuve externe. Et sur le consentement, vous deviez mettre même en preuve que vous avez expressément manifesté. Il y a eu même à une certaine époque où vous deviez avoir résisté physiquement et mettre en preuve que vous avez résisté physiquement. Il y a plein de choses qui tenaient pas la route avec l'évolution de la société. Donc, maintenant, ça a été abrogé. Mais pour ce qui est des peines, donc, les éléments constitutifs seront pour l'infraction de l'époque, mais pour la peine, la charte prévoit que vous avez le droit à la peine la moins sévère entre ce qui est possible aujourd'hui puis ce qui était possible à l'époque.
Bon, mais là, il y a un détail, par contre, là. Et de part et d'autre, là, dans le procès Rozon, est-ce qu'on a défini qu'il y avait eu pénétration ou non? Parce que là, dans la version de Rozon, c'est juste, tu sais, elle s'est fait elle-même l'amour. Donc, là, encore là, je veux dire, s'il n'y a pas eu pénétration, donc la peine risque d'être moins élevée.
Ben, de ce que j'ai compris de sa version à lui, mais là, évidemment, on n'a pas les détails, puis j'ai lu ça dans les médias, c'est qu'il dit s'être réveillé en érection avec une femme assise sur lui qui se faisait l'amour. Donc, je pense que lui admet aussi la pénétration, dans un contexte tout autre. Mais elle, dès le départ, la chose qu'on pouvait conclure avant même le début du procès, c'est que la victime viendra alléguer qu'elle a été pénétrée. puis que c'était une victime féminine, parce que sinon, c'était pas un viol à l'époque. Et donc, elle, c'est ce qu'elle prétend, s'est réveillée, lui était par-dessus lui, l'aurait pénétré de force, et lui vient dire tout à fait le contraire, c'est lui qui dormait, et c'est elle qui s'est assise par-dessus lui, et qui l'aurait chevauché de force.
Bon, on a une question d'un auditeur. Il dit, salut Richard, dans le procès Gilbert Rozon, quand c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et qu'on doit tirer à pile ou face qui a raison, il dit, on serait pas mieux de passer les deux personnes au détecteur de mensonges? Je connais déjà la réponse, mais je veux te l'entendre dire.
Bon. Et on ne fait pas pile ou face. Encore une fois, le système est fait que vraiment, on veut éviter les erreurs judiciaires. Donc, le bénéfice du doute appartient à l'accusé. Il n'y a qu'à soulever un doute. En matière civile, là, c'est vraiment plus, justement, 50% plus 1. Qu'est-ce qui est le plus probable entre les deux? En matière criminelle, le fardeau de la preuve appartient au ministère public qui doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Le problème avec le détecteur de mensonges, c'est que si on avait une technologie qui faisait en sorte que vous pesez sur un buzzer, ça sort rouge ou ça sort vert, ça pourrait être éventuellement dans le futur quelque chose qui pourrait être le cas. Présentement, la marge d'erreur fait en sorte surtout que c'est une interprétation qui est faite par des policiers enquêteurs qui sont formés pour le détecteur de mensonges et qui vont tirer des conclusions sur l'analyse qu'eux en font. Et comme la marge d'erreur est aux alentours de 80-90, dépendamment des fois, comme je le dis, il y en a qui s'achètent du 6,49 avec une chance sur 16 millions, une chance sur 10 ou 200 sur 10 de me tromper. Moi, je confierais pas une déclaration de culpabilité à l'interprétation que peut faire un policier d'un détecteur de mensonges.
On va parler du membre en règle des Hells Angels, Bernard Ben Plourde, qui est condamné à une peine de 7 ans de pénitencier pour avoir contrôlé durant 2 ans la vente de stupéfiants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a plaidé coupable et en plaidant coupable, ben, il évite la tenue d'un procès devant jury de 4 mois. Julien, je veux qu'on s'attarde à ce que le juge a dit. Donc, le juge Huot a dit, vous vous en tirez de façon satisfaisante pour vous dans un contexte particulier qui joue en votre faveur. Donc, il faisait référence au contexte de la pandémie?
Non, au contexte du fait qu'il a enregistré un plaidoyer de culpabilité, c'est un calcul de risque. Hein. Quand on est rendu à minuit moins une comme ça, puis qu'on s'en va dans le procès, c'est un calcul de risque de part et d'autre. C'est-à-dire que si on gagne, si on est capable d'attaquer la preuve, puis si on gagne le procès, évidemment qu'on va se taper dans les mains. T'sais, on peut aller chercher zéro, mais si on perd le procès devant jury, on risque d'aller chercher beaucoup plus. Donc, il y a une analyse qui se fait, puis maintenant, une analyse de la preuve, puis une fois que toutes les requêtes sont faites pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut aller soutirer des faiblesses de la preuve, maintenant, on s'assoit avec nos clients, on s'assoit avec la poursuite, puis de part et d'autre, hein, il y avait un délateur là-dedans qui était pas... quelqu'un qui aurait sans doute subi un contre-interrogatoire très serré, que sa crédibilité aurait pu être grandement mise en doute, donc le ministère public savait que sa preuve était pas non plus la meilleure, là. Il n'a pas été pris sur le coup, puis c'est pas quelqu'un qui faisait du trafic direct. Là, ça découlait, la preuve découlait d'un délateur. Donc, évidemment, ça a été pris en considération. Et c'est un peu ce que le juge voulait dire. Là, votre plaidoyer de culpabilité puis la suggestion commune font en sorte que vous avez peut-être une peine moins sévère que si je vous aurais déclaré coupable après procès.
Bernard Plourde de 56 ans, et le juge a dit... il est peut-être temps de penser à la liberté 55. Il rajoute, à nos âges, les gens pensent à devenir juge ou à la retraite. Il dit, pensez donc à la retraite. Est-ce que ça arrive souvent que les juges comme ça font de l'humour et sont un peu moralisateurs?
Oui, régulièrement.
Ah oui?
Je vous dirais même très régulièrement.
Okay.
Les juges vont souvent y aller d'une morale, dépendamment des clients qui sont devant eux, puis d'essayer justement de faire en sorte de ne pas les revoir ou d'y donner un petit conseil ou un petit gant en face, là, dépendamment des circonstances. Dans ce cas-ci, il a lancé ça un peu à la boutade, mais avec certainement un fond de vérité. Et d'ailleurs, M. Plourde, le remercier pour ce commentaire-là.
En terminant, Julien, retour en cours demain de Stéphanie Frenette, accusée de voies de fait graves. On en est où dans les procédures judiciaires dans ce dossier-là?
Demain, c'est une décision sur une requête qui a eu lieu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il reste des experts à être entendus. Et le ministère public voulait pouvoir faire entendre un expert, ben deux de ces trois experts en premier, et ensuite attendre ma défense et mon expert pour ensuite revenir en contre-preuve avec un autre de ces experts. Et moi, je prétendais qu'il devait le faire tout d'un bout dans la preuve principale, et c'est ce que le juge va trancher demain, dans quel ordre seront entendus les experts. Donc, c'est simplement pour ça que ça revient. Sinon, la continuation est dans 2 semaines, le 26 octobre.
Donc, une technicalité.
Technicalité, mais qui peut avoir quand même son importance, donc à suivre demain.
Maître Bouliane, c'est toujours un plaisir. On va te retrouver donc mardi matin dans le show du matin. Merci beaucoup.
Salut, bonne fin de semaine.
Au retour de la pause, notre morning man préféré. Et d'ici la fin de l'émission, on reparle à Martin McGuire, qui est en train de s'entretenir avec Brendan Gallagher, qui vient de signer un contrat, une prolongation de contrat de 7 ans avec le Canadien de Montréal.